c'est une opinion.
Et comment ça s'organise, hein. Comment ça s'organise maintenant? Il y a une apparence de pouvoir local, mais en fait, comment intervient la puissance coloniale qui est en fait notre République?
On intervient par nos intérêts privés, c'est-à-dire on possède le port de Douala avec Bolloré, on possède l'électricité, les télécoms, etc. Enfin, c'est nous qui sommes installés là toujours très majoritairement, même si les Américains et les Chinois réussissent quelques percées. Au Cameroun, il y a beaucoup de pétrole. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à l'époque, et pendant très longtemps, jusqu'à l'année dernière, pour arriver aux minerais du Tchad, il fallait passer par le Cameroun. Alors l'année dernière, la situation s'est débloquée. C'est-à-dire qu'on a foutu sur la gueule à la Libye. Et maintenant, ça devient possible d'extraire tous les minerais qui sont extrêmement importants, justement à la frontière de Libye, au Tchad. Ça devient possible de les sortir d'Afrique, alors qu'avant, il fallait passer par le Cameroun et traverser tout le Tchad, qui est tout à fait énorme. Hein, donc ça avait toujours été considéré comme une réserve. Cette réserve, moi qui discutais avec des Français qui travaillaient au BRGM, là, au bureau des trucs miniers, ils avaient des représentants, ils cherchaient du minerai à cette époque-là, de 68 à 72. Eh bien, ces gens-là disaient qu'au Tchad, les minerais, il y a une fortune dans le nord du Tchad.
Donc la limite avec le Tibesti, donc cette zone, la bande d'Aouzou, et oui. Donc après, maintenant, la porte ouverte sur la Méditerranée par la Libye.
Voilà. Ça, c'est des petits trucs qui changent, qui font que le Cameroun deviendra un peu moins important qu'il ne l'a été.
Et comme richesse, donc il y a du pétrole au Cameroun? Il y a la forêt qui est exploitée aussi?
Le bois, et puis les bananes, les cultures vivrières. Et puis, je ne sais pas, j'ai pas étudié spécialement s'il y avait des minerais comme l'or, ceci ou cela, comme il y a dans des pays voisins. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas vraiment étudié cet aspect. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est vous dire que, bien, à cette époque-là, on a mis en place ce monsieur Aïdjo. Il est resté très longtemps. Il a été remplacé un jour par la force, par son premier ministre, qui a fait exactement la même politique que lui, et qui est toujours en vie aujourd'hui. C'est toujours le même qui est là. Si vous voulez, on n'est jamais sorti du régime qui a été instauré par la force à cette époque-là. Et donc, quand il y a des émeutes de la faim, comme en 88, c'est le massacre. Et en plus, je pense que c'est comme avant. On ne sait pas la moitié du tiers ou du quart de ce qui s'y passe. Si vous voulez, moi, j'ai lu pendant 35 ans Le Monde. Pour moi, c'est le journal des menteurs. Mais je le savais dès le début, si vous voulez. Et alors, quand vous savez qu'un journal vous ment, mais que vous le lisez quand même, vous avez une façon de le lire et de chercher l'information, de regarder des entrefilets pour essayer de comprendre. En fait, vous êtes en train de lire comme un diplomate français capable de lire, ou un diplomate étranger capable de lire Le Monde. Si vous n'êtes pas persuadé que Le Monde vous ment complètement en vous racontant la politique étrangère de la France, vous vous trompez en lisant ce journal. Ce n'est pas possible de le lire correctement. Alors évidemment, après, vous avez Libération, c'est bien pareil au Monde, au même. Hein, et Le Figaro, c'est pareil. L'idéal, ce serait de lire tous les journaux et puis de réussir à attraper un petit truc ici et là, faire un travail que les gens du SDEC sont capables de faire, mais pas un type qui n'a pas que ça à faire.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour ça, parce que je considère que ce n'est pas en cherchant des informations partout qu'on arrive à trouver, c'est plutôt le contraire. S'arrêter de temps en temps, de rester 3-4 jours sans informations. Puis après, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé avec le peu d'informations que vous avez. Et moi, je prétends que je sais plus de choses que si jamais je suivais régulièrement.
Moi, je vous dirais... en période de guerre, j'achète l'humanité, j'achète le monde, parfois le canard enchaîné, et puis en fait je me réfère de plus en plus, il faut vraiment que ce soit une période de crise où il y a des trucs que je ne comprends pas, que je cherche à comprendre, et que je n'arrive pas à trouver sur Internet. Parce qu'en fait, moi j'utilise maintenant Internet, mais j'ai abandonné les journaux. Tous ces journaux sont nuls.
Ils sont...
Quand vous avez Internet, il y a des sites qui passent leur temps à recueillir des articles du monde entier, qui traduisent les articles qui viennent d'Algérie, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Italie, etc. Ils traduisent tous ces articles qu'ils jugent importants pour la compréhension de la politique étrangère, ou bien des articles grecs. En ce moment, bien, vous n'avez pas besoin de savoir toutes ces langues. Il y a des sites qui passent leur temps à sélectionner les articles intéressants et à tout vous traduire. C'est d'une richesse par rapport aux journaux qui vous manquent. C'est ahurissant.
Quelle est l'importance du pouvoir politique français actuellement au Cameroun ? Ou par quelle manière ça se passe?
Je pense que de toute façon, ces gens-là ont toujours peur de nous. Ouais. Donc il est exclu. Comme ça, en plus, comme au Gabon, c'est le même, c'est son fils. Là, c'est le premier ministre du président initial. Dans certains pays, je ne sais plus, ça doit être... Oui, au Ghana. Ils ont réussi le coup formidable de gagner les élections pour l'indépendance en faisant élire vraiment les vrais indépendantistes. Bon, 3 ans après, il y avait un coup d'État qui les renversait. C'est-à-dire la France s'occupe, quand ça ne se passe pas comme ils veulent, la France s'occupe de monter quand même... des gens qui vont intervenir par la force. Elles donnent des armes à ces gens-là, etc. Ils trouvent toujours, notamment chez les militaires, des gens à qui on dit « Voilà, vous allez avoir des armes beaucoup plus sophistiquées que vous avez avant. Vous allez, avec ces armes-là, être capable de foutre sur la gueule à l'armée qui a des armes nulles par rapport à ce qu'on va vous donner. Et puis, en plus, vous aurez le pouvoir. Et en plus, on va vous applaudir. Et c'est vous qu'on aide. » Il y a énormément de militaires qui acceptent ce jeu-là.
Je crois que ça se fait beaucoup moins directement que ça. C'est pas forcément, disons, ça se passe pas forcément entre armées. C'est souvent des intérêts privés. On se sert d'intérêts privés, des grandes compagnies, pour financer des mouvements qui vont, contrer, par exemple, un mouvement révolutionnaire. Mais c'est beaucoup plus indirect et beaucoup plus insidieux.
Actuellement, oui.
Il y a même des cas où, par exemple, dans l'affaire Elf, il a été prouvé que Elf finançait les deux partis. Parce qu'en ne sachant pas lequel allait avoir le pouvoir, il valait mieux financer les deux pour être sûr d'être avec le pouvoir au bon moment.
Alors, la question, c'est ça rapporte à qui tout ça ?
Je suis pas très, très, très certain de votre interprétation. C'est-à-dire qu'en tout cas, celui qui avait été élu et dont on ne voulait pas a été mis dehors, et l'ancien qui n'avait pas été élu a été remis en place. Oui. Anne Guesso, celui qui est actuellement là. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, visiblement, on a gagné. C'est-à-dire celui qui devait y être encore, il a été remis.
Mais les deux ont été...
En plus, je peux vous dire que j'ai travaillé en recherche avec un collègue congolais qui est venu en, en France à plusieurs reprises. Il a vu, lui, les hélicoptères qui mitraillaient la population. Ça lui a coûté beaucoup parce qu'il a dû fuir en forêt avec sa famille pendant plusieurs mois. Imaginez quand même que vous partez en forêt, que vous devez vivre plusieurs mois en forêt alors que vous avez été habitué à une vie universitaire. Enfin bref, lui, il a vu les hélicoptères. Et c'était des hélicoptères qui venaient d'être peints. À travers la peinture, on voyait encore Elf. C'est-à-dire le matériel d'Elf a été traité. Il était insuffisant pour foutre sur la gueule à l'armée. En plus, les troupes, il m'a dit, mais ces gens-là, on ne comprenait pas d'où ils sortaient. Il n'y a personne qui parlait leur langue. Et une bonne partie de ces gens-là, c'était des Tutsis du Rwanda, ceux que les Français ont exfiltrés, c'est-à-dire les génocidaires. Qu'ils ont protégé et exfiltré, il y a une partie de ceux-là qui ont été utilisés au Congo-Brazzaville pour remettre en place Senghesso.
Oui, parce que le président qui avait été élu, Lissouba, la première mesure qu'il avait prise, c'était de doubler la part qui revenait au pays dans le commerce du pétrole. Et c'est pour ça qu'il a été démis avec l'aide des forces angolaises.
Bien sûr, il avait une attitude inadmissible. Oui.
Mais tout ça s'est passé par les compagnies pétrolières.
Oui, oui.
Les armes ont été fournies par les compagnies pétrolières. Oui, c'est pas les armées qui directement ont traité
c'est
avec
vrai.
Les mouvements.
C'est vrai. C'est-à-dire que de plus en plus, les multinationales ont une telle importance, ils deviennent plus riches que les États, notamment les multinationales pétrolières. Et ils sont capables de constituer pas une armée qui va perdurer tout le temps, mais quand ils ont besoin d'une armée, ils la constituent.
Pourquoi le Ghana est considéré comme pays un peu qui a la plus grosse croissance aujourd'hui au monde? Qu'est-ce que c'est qui fait que le Ghana a une croissance énorme? Une démocratie qui semble fonctionner.
Je ne peux pas vous...
Après, pas mal de coups d'État. Il y a eu 5 ou 6 coups d'État successifs. Ils ont mangé, disons, leur pain noir au début, juste après les indépendances. Et puis, bon, disons qu'ils profitent largement actuellement, disons, du déclassement de la Côte d'Ivoire, qui était premier producteur mondial de cacao. Et le Ghana est devenu, disons, maintenant, le premier producteur mondial. Mais il a profité de la commercialisation du cacao de la Côte d'Ivoire pendant la guerre. Il faut le dire qu'il a profité de la guerre interne à la Côte d'Ivoire pour se placer sur le marché mondial du cacao. C'est ce qui fait sa richesse.
C'est la plus forte croissance au monde.
C'est la plus forte croissance. Mais bon,
il y a
20 ans de stabilité, hein, 25
oui,
ans.
On sait que croissance pour les uns, c'est pas croissance pour les autres. Ça veut dire qu'il y a quelques-uns qui se mettent dans des poches et les autres. Croissance, ça veut rien dire.
Ouais,
en question redistribution, ça veut rien dire.
Non, mais enfin, il y a juste un truc, moi, qui me... Je suis un ignorant, mais il y a quelque chose qui me trotte un peu, c'est la France, elle a toujours pas demandé pardon, quoi. Pas pour tous ces crimes, tout ça, quoi.
Je dirais même plus, il y a énormément d'amnésie, mais une amnésie générale, c'est-à-dire que même les plus grands, même les Mesmer et autres, n'est-ce pas, se souviennent plus de rien, n'est-ce pas, ils n'ont jamais ordonné d'envoyer des hélicoptères tirés sur des villages camerounais, mais jamais la vie, enfin, on a entendu récemment. Enfin, mais c'est une divaguée, c'est une aberration. Où est-ce que vous avez lu ça? Vous avez lu ça dans des romans, hein, n'est-ce pas? On sait pas, on oublie tout.
C'est-à-dire que moi, je pense que le problème de la violence, c'est un problème général. Par exemple, on est en France extrêmement violent.
À Nuremberg, c'était pareil.
Avec
Nuremberg, ils avaient tout oublié.
Avec les prisons, par exemple. Hein, on met des jeunes dans les prisons. On met des malades mentaux dans les prisons, on entasse les gens, il y a des viols, on ne s'en occupe pas trop, mais enfin, il y a des gens qui, qui rentre, qui avait volé une bicyclette ou une voiture, qui ressortent violées qui deviennent soit complètement cassées, soit dangereux alors qu'ils ne l'étaient pas vraiment. On gère la société de façon étonnante, de toute façon, et effectivement, tous les problèmes sont liés entre eux. Tant que on verra les prisons de cette manière, je pense que notre armée, on pourra toujours se dire qu'est-ce qu'elle est en train de foutre, comment sont formés ces hommes. Ils sont formés, c'est des tueurs, c'est pas, vous pouvez les appeler des militaires, etc., mais ce qu'on appelle les commandos, c'est des gens complètement... Moi, j'ai discuté avec des militaires. Hein. J'ai discuté avec des militaires dans les boîtes de nuit à Yaoundé. Notamment, c'était pas des militaires français. C'était des militaires français, mais pas qui travaillaient au Cameroun. C'était des militaires tchadiens. Et ils venaient dans les boîtes de nuit le week-end pour se reposer. Et quand je discutais avec eux, je leur demandais qu'est-ce que vous avez fait travail depuis un mois, et ben ils disaient, ils étaient tout fiers d'annoncer qu'ils avaient cassé du nègre. Voilà. Et bon, de toute façon, un progressiste, c'est un communiste. Un communiste, c'est un terroriste. Et un terroriste, il faut l'abattre.
Il ne faut pas les incriminer.
Voilà, c'est le raisonnement de Mesmer, c'est le raisonnement même de Gaulle. De
toute façon. Si on a une autre idée de ce qu'il faudrait faire, quelle est la solution?
Je sais pas, il y a Mandela qui offre une voie possible par rapport à cette histoire de violence. C'est-à-dire, cette violence, on l'a tous en nous. Enfin, moi, je sais pas, je suis un homme, je sais que quand j'étais jeune, je sentais en moi de la violence, de la révolte, etc. Et avec un hasard de circonstances malheureux, j'aurais mal tourné, comme on dit. Donc cette violence, je la reconnais en moi, et je me dis que quand je vois des choses comme ça, elle doit être un peu chez tout le monde. Mais en fait, elle n'est pas du tout affrontée de face à... elle n'est jamais affrontée de face. Et Mandela, il a quand même montré une solution. Au départ, il était complètement pacifiste. Il a ensuite constitué une branche armée dans son mouvement. Il a abandonné le côté complètement pacifiste. Mais à la fin, il a quand même institué une façon de régler les problèmes de la violence, plutôt que de détruire ceux qui s'étaient rendus coupables. Il a proposé une solution qui est quand même assez intéressante. On pourrait éventuellement, devant un jeune qui fait une violence, on pourrait envisager une solution de ce genre. C'est-à-dire lui dire, exprime-nous vraiment le fait que tu as fait une faute, que tu... Et puis, une fois que tu auras exprimé ça, évidemment, on va te surveiller, mais en gros, l'affaire est terminée. C'est ce qu'il a fait. Tous ces blancs sud-africains, il y avait un sacré paquet de nazis. Hein, c'était les blancs sud-africains, ils disaient, certains chrétiens, ils disaient, les noirs n'ont pas d'âme, c'est des animaux, on peut en faire ce qu'on veut. Si tu veux, on trouve toujours des justifications à ces façons racistes, violentes de procéder. Et oui, je pense que le problème de la violence devrait être abordé par notre société en tout point.
À chaque élection, on dit que la France-Afrique s'est terminée. On dit qu'une ère nouvelle commence. Je ne sais pas si elle commence. Voilà.
A priori, vu tout ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, elle n'a pas commencé. Puisque chaque fois, on a vu que ça ne marchait pas. Pour moi, la guerre de Libye, c'est une guerre coloniale. Quand vous voyez qui a voté la guerre de Libye, ben, c'est pratiquement tous les partis français. Donc...
La guerre en Afghanistan, c'est la même chose.
Comment?
La guerre en Afghanistan, c'est une guerre coloniale.
Oui, 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 oui.
Comme en Israël,
comme toutes les guerres.
Sauf que, voilà, c'était pour revenir à la violence. Je suis tout à fait d'accord. On peut être violent. Mais ce qui fait de la noblesse, justement, de l'homme et d'une société, c'est de, voilà, c'est de reconnaître, justement, ses torts, quoi. Et pas hésiter à demander pardon, quoi. Voilà, quand on fait du mal, on est violent, on fait du mal. Mais voilà, il faut demander pardon.
Oui. Oui, mais ça suffit pas. Il faut aussi changer d'attitude, parce qu'à quoi ça sert de demander pardon si on continue de faire la même chose?
Ce qui est terrible avec le Cameroun, c'est la charpe de plomb qu'il y a eu sur tout ce qui s'est passé. On n'a jamais su.
Regardez avec la guerre d'Algérie.
Oui, non mais.
Pendant très longtemps, on a dit que c'était des événements.
Même pendant.
Il y a très peu de temps qu'on dit que c'est une guerre.
Oui, c'est vrai. Oui,
bon,
c'est vrai.
Là, oui. Il se trouve que on est à l'étape du Cameroun où on ne reconnaît pas qu'il est arrivé des événements.
Oui.
On va sans doute reconnaître à un moment donné qu'il y a des événements qui se sont produits. Et puis après, on va dire, bon, ben, c'était tellement gros que c'était une guerre. Une guerre contre la population. Pas une guerre contre deux armées, hein. C'est vraiment une guerre contre la population.
Ce que je voulais dire, moi, c'est un plan personnel, c'est que j'étais au Cameroun en 47, de 47 à 60, et j'ai vécu personnellement l'incendie du quartier dont vous parlez tout à l'heure, le quartier New Bell, pas le quartier Congo, là. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué, évidemment, puisque j'étais adolescent, j'avais 13 ans, et... surtout, ce qui m'a marqué, c'est le mensonge et l'ignorance de tout ce qui s'était passé le lendemain. Dans la presse, il y avait écrit deux morts et 2500 gens qui n'ont plus de logement, la faute à qui, etc. Voilà ce qu'on disait. Et tout ce qui s'est passé comme événement à ce moment-là, j'ai senti personnellement cette voilà, le mensonge, en général, le mensonge des gens et le non-dit. Voilà, on ne parlait pas. Alors, la presse française, bien sûr, ne disait rien. Même au Cameroun, personne ne savait rien. On était là, et nous, on avait très peur, bien sûr, parce qu'on était dans un quartier sur la route de l'aviation, vous savez, là, vous avez parlé de là où il y a eu... le 1er janvier 60, je me souviens très bien, le 1er janvier 60, j'étais dans ce logement sur la route de l'aviation, on savait qu'il y avait des morts à l'aéroport et on chantait, vous savez, pour le 1er janvier, quoi. Ouais. Et puis, bon, voilà, mais on était comme ça, quoi. On avait très, très peur, très, très peur. Et on entendait l'un qui disait « Chérie, tu m'avais promis la caresse, etc. » Enfin, bon, des trucs bien rigolos, mais en fait, on avait très, très, très peur, quoi, tous. On n'était pas du tout rassurés, voilà, tout ce qui se passait.
Moi, quand je suis revenu du Cameroun, avec des collègues à l'université, j'ai fondé le collectif contre l'impérialisme français en Afrique. C'est un truc qui a fonctionné pendant une quinzaine d'années. Et en fait, on a eu très peu de documents. Actuellement, on a énormément de documents. On a des films, on a des livres. C'est extraordinaire. Et puis en plus, on a des jeunes. À Toulouse, ceux qui sont en survie, c'est une bande de jeunes hyperactifs. Et je peux vous dire qu'on n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe à Toulouse. Je ne sais plus, j'ai perdu mon film.
Est-ce que vous avez des témoignages est-ce que vous avez des témoignages de gens qui ont vécu ces événements au Cameroun à cette époque-là?
Moi, j'ai rencontré Mongo Biti, par exemple, l'écrivain qui a été censuré en France au sujet d'un livre Main basse sur le Cameroun. Bon, il était en France. Après, sur place, ah oui. Voilà, j'ai envoyé des mails à des collègues que j'avais connus là-bas, et qui sont maintenant comme moi à la retraite. Et je leur ai dit, pourquoi vous m'avez rien dit? Et bon, ils m'ont dit, si on vous disait quelque chose, pour nous, c'était la prison. Si on découvrait, c'était la prison ou la mort. La prison, c'est en général, c'est très souvent la mort. Et pour vous, c'était l'expulsion immédiate. Alors, dans ces conditions-là, on fermait tous notre gueule. Voilà. Et en plus, il a quand même rajouté, aujourd'hui, c'est pas très différent. C'est-à-dire, ils ont peur, toujours.
50 ans.
Mais c'est-à-dire que, oui, ils ont peur.
Il montre la permanence. Incroyable. La permanence du faux pouvoir, enfin du pouvoir camerounais dans les circonstances où il a été mis en place, et la permanence de toutes ces multinationales qui deviennent même beaucoup plus importantes qu'elles n'étaient au départ, au point de se payer tous les ports du golfe du Gabon appartiennent à Bolloré. C'est quand même quelque chose qui est faramineux. Le mec qui se vante de mettre la voiture électrique à disposition des Français, n'est-ce pas, pour l'indépendance énergétique et tout le reste. Bon, je veux dire, tout est quand même sacrément lié. Quelque part, si on a la voiture électrique libre comme le Vélib à Paris, c'est parce qu'on a réussi à faire des massacres en Afrique. C'est pas pour d'autres raisons que ces gens-là, nous pouvions.
Et c'est vrai qu'il y a eu une charte de plomb sur tous ces événements, parce que moi j'ai fait mon service militaire en coopération donc, au Cameroun en 68-69. J'étais donc au Pays-Bas Mileke, à Bafoussam. Et donc au sujet de ce que vous avez dit tout à l'heure, là, tous ces camps, moi là-bas, pendant tout mon service militaire, je n'ai jamais entendu parler de ces camps. Jamais, jamais, jamais. Tout en y étant pendant donc une longue période.
Et mais ça veut dire que quand vous étiez militaire, vous étiez qu'entre vous. Il n'y avait pas de contact avec la population locale.
Vous on en avait quand même, puisque j'étais dans un lycée.
Vous étiez enseignant
dans un lycée, on avait quand même des contacts, mais je n'ai jamais entendu parler de camp comme ça.
Non plus, je suis resté 4 ans, je n'ai jamais entendu parler.
Incroyable. Et pourtant, donc, non, je vais l'avoir pas bien loin.
Quand je vous ai dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait la prison et qui en a réchappé, et ses 4... copains villageois ne l'ont pas réchappé. Voilà, c'est rare que j'ai eu ce genre d'information. En fait, c'est tout à fait exceptionnel. C'est parce que je me suis marié et donc j'ai eu droit, ou bien par un collègue qui m'a emmené au village, j'ai eu des contacts un petit peu plus chaleureux et au fil des ans, je finissais par avoir une information. Mais une information que je demandais pas, puisque je savais pas qu'il y avait l'information à recueillir non plus. Quand je pense à l'attitude que j'avais à ce moment-là, j'étais un être complètement stupide.
Oui, mais moi, c'est pas... Toutes les informations que vous avez données, là, moi, je les ignorais à l'époque. Pourtant, bon, c'était là-bas. Moi, je voyais des événements qui se passaient. Par exemple, quelques jours avant que je sois arrivé, il y a eu des exécutions sur la place de la ville, avec exposition des têtes après. Donc c'était quand même assez terrible. Bon, il y avait couvre-feu. Je sais qu'aux élections, il y avait 99% pour le parti d'Aïdjo. Et puis les 1% qui restaient, souvent, eux, ils y passaient après, quoi. Les 1% d'opposants, ils y passaient. Hein. On savait ça, mais on ne savait pas toute la genèse de ça. Il y avait vraiment une chape de plomb là sur tout ça.
Dire combien j'étais stupide. J'avais à Yaoundé, il y avait quand même des quartiers où il y avait une bonne ambiance de fête et tout ça, où j'allais bien me promener le soir et tout. Quand je suis allé à Yaoundé, je suis tombé sur des quartiers analogues, très animés et tout. Bon, je trouvais ça très bien. Quand j'allais dans des villages en brousse, c'était accompagné soit d'une fille, soit de collègues. Ça se passait formidablement bien. À ce sujet-là, je voudrais vous dire une chose. Moi, quand j'ai débarqué au Cameroun, j'ai été sidéré de la diversité de ce pays. C'est-à-dire, on dénombrait 90 dialectes sur une population de 8 millions d'habitants à cette époque. Vous alliez dans une ethnie, c'était des mœurs différentes, c'était des coutumes différentes, de la cuisine différente, souvent incroyablement bonne. Vous changez d'ethnie, c'était autre chose. Moi, je me suis dit, voilà un pays, c'est incroyable, il me donne l'impression qu'en France, c'est un pays complètement monolithique, et là, je suis devant une variété, une diversité, une richesse. Enfin, moi, je voyais, il faut dire que mon métier, c'est statisticien. Je voyais une richesse ahurissante. Et ça ne m'a jamais quitté, hein, cette idée. En plus, c'est assez curieux. J'ai appris il n'y a pas longtemps que les généticiens qui étudient les populations, ils regardent la variété génétique, notamment des populations. Et plus on s'éloigne de l'Afrique, plus la variété génétique à l'intérieur d'une population s'appauvrit. Et donc, si vous souhaitez que l'humanité puisse traverser les millénaires, il vous faut absolument garder le potentiel qui existe en Afrique. C'est là qu'il y a la variété génétique la plus grande. Plus vous remontez dans le nord, plus c'est un peu de l'endogamie. Alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps aussi que ce n'est plus 80 dialectes qui existent maintenant. On en répertorie 240. C'est-à-dire qu'à l'époque, sur les 8 millions d'habitants, il y avait 240 dialectes déjà, dont des langues absolument incompréhensibles entre elles. Hein. Aussi, d'un point de vue structurel, on vous dit qu'il y a des ethnies. En fait, au nord du Cameroun, il y a un système de sultanat qui est très particulier. Dans le Bamileke, où il y a eu les événements les plus violents, semble-t-il, c'est un régime de chefferie assez particulier qui n'a rien à voir avec le sultanat. C'est-à-dire qu'un chef, quand il est élu pour la vie. D'ailleurs, les Français ont fait des conneries là-dedans parce qu'ils se sont amusés à dire « toi, t'es plus chef », ils en ont mis un autre. Alors qu'un autre ne peut pas être désigné de cette manière-là du tout. Il faut que toutes les chefferies qui sont autour acceptent ce chef de cette chefferie. Ça, c'est une structure. Chez les Bassa, c'est complètement autre chose. Il n'y a pas de chef, de chefferie, tout ça. Il y a, au fond de la société, toute une société secrète qui est basée sur les plus vieux, qui est complètement inaccessible pour un blanc. Moi, c'est des choses que j'ai appris quand j'étais là-bas. Mais je trouvais ça sidérant parce qu'en fait, ça correspond à des systèmes politiques complètement différents. Nous, on a plutôt le genre sultanat comme système politique. C'est ce qui se rapproche le plus. On pourrait peut-être penser à faire autre chose.
Tout à l'heure, vous vouliez dire quelque chose. C'est passé.
Ma question, c'est... le mot chape de plomb était plusieurs fois là. Est-ce que ça se lève? Est-ce que l'opinion française s'approche de ce thème, cette culpabilité? Ou est-ce que c'est encore quelque chose où ce sont que des nègres, en fait? La deuxième chose qui me travaille, c'est aujourd'hui, avec Internet, on pourrait se dire que des massacres comme ça, ça ne passera plus inaperçu. Et d'un autre côté, on a assez souvent eu des cas, des massacres, soit dites, ou qui étaient exploités pour mener l'opinion dans une certaine direction. On se rappelle des bébés qui étaient tués à Koweït pour justifier pourquoi.
Il y a toujours des bébés tués, toujours des enfants massacrés, toujours des...
Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que Internet
des femmes violées.
Est vraiment...
Toutes les débuts de guerre démarrent avec des histoires comme ça.
Le garant qu'on ne peut plus passer à côté de quelque chose.
Disons que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'être reporter spécial d'un journal pour rendre compte de ce qui se passe quand même. À l'époque, on n'avait que ces reporters-là qui disaient ce qu'on leur disait de dire pour
comme témoin. Alors que maintenant, on est tous témoins. Et on a tous nos appareils, un portable, on peut photographier quelqu'un et on peut rendre compte de la réalité des faits. Alors c'est plus pareil quand même. Évidemment, on n'est plus dans les mêmes
C'est sûr que ça a changé, mais il faut être soi-même très cultivé pour être capable de faire un tri dans toutes ces informations nous arrivent. Il faut être très politisé aussi. Enfin, je sais pas, il faut avoir lu Le Monde pendant 35 ans sans savoir, sans oublier Le Monde diplomatique, sans oublier autre chose.
Oui, Le Monde a quand même aussi quand même contre la mondialisation et tout ça.
Puis il faut avoir discuté avec... moi j'ai discuté avec des Algériens. J'avais une position un peu privilégiée du fait que j'étais enseignant, chercheur, si vous voulez. Au bout d'un certain temps, il peut s'établir des rapports assez importants avec des gens avec qui on travaille pendant plusieurs années. Et donc ils finissaient par... parce que là, je les interrogeais, ils finissaient par me raconter des choses. Donc... des choses qui m'avaient tracassé dans l'information, j'arrivais à trouver des réponses pour éclaircir la situation. Cela, voilà, c'est quand même tout un travail. Il faut se mettre en réseau avec des gens qui s'intéressent à ce genre de travail pour arriver, qui sont capables de vous dire tel site internet est plus intéressant qu'un autre, celui-là j'ai mis des réserves. Il faut effectivement se mettre en réseau comme ça pour finir à s'informer. Après, l'histoire du racisme ambiant, moi j'ai l'impression que le racisme, il vient toujours d'en haut, il est toujours construit par le haut, par le pouvoir, beaucoup plus que le mouvement inverse qui viendrait de la base. Donc là, c'est des pouvoirs dont il faut se débarrasser, qui nous mettent sur cette mauvaise pente.
Par rapport au Rwanda, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à l'implication de la France dans les événements qui sont passés au Rwanda?
Oui, je pense que pendant la période du Cameroun, les gens disaient « mais vous avez oublié de parler de Sétif », etc. C'est vrai, il y a plein de trucs. La liste est invraisemblable. Par exemple, les théoriciens militaires de la guerre révolutionnaire, à l'époque dont je vous parlais, ils sont allés donner des cours en Argentine. Et les événements du fascisme argentin sont survenus après. Donc on a beaucoup essaimé, en fait, pas seulement dans toute l'Afrique, mais aussi à l'étranger. Allez, j'ai encore perdu le fil.
Le Rwanda.
Alors, je crois qu'on n'a jamais fait pire. Mais là, le problème, c'est que en France, il est quand même... Bon, il y a beaucoup de possibilités de documents. Hein. C'est invraisemblable, tous les bouquins qui paraissent à ce sujet-là, et les rapports qui ont été associés au procès d'Arusha et tout ça. Il y a des associations aussi qui sont spécialisées, il y en a qui sont à la poursuite pour essayer de monter des procès contre les génocidaires qui sont réfugiés en France, parce qu'on est un des rares pays qui coupable à fond. On est celui le plus coupable dans l'affaire. Et en même temps, celui qui protège le plus, c'est les génocidaires en France. Dans d'autres pays, il y a eu des procès, il y a des bonnes sœurs en tôle, etc. Il y a des choses comme ça. C'est vrai que pour le Rwanda, il y a un travail incroyable à faire. Et après le Cameroun, pour moi, c'est le deuxième sujet qui m'intéresse le plus, sur lequel je lis le plus. C'est pour ça, vous me demanderiez qu'est-ce qui se passe au Mali actuellement. Bon, je lis comme ça les événements, mais je suis incapable d'analyser la situation. En fait, je n'ai aucune culture qui est rattachée à tous les autres pays. J'ai une culture sur l'Afrique qui me vient de très loin, parce que depuis que j'y suis allé, j'ai suivi ce qui s'y passe. J'ai accumulé des lectures, j'ai accumulé des contacts. Je commence un travail sur le Rwanda un peu du même ordre. Mais pour tous les autres pays, je suis nul. Hein. Ça, je peux dire que Alors vraiment, à survie, on a besoin, on aimerait trouver des gens qui acceptent de s'attacher à un pays ou à un aspect et qui se mettent à écrire un ouvrage qui permettrait d'augmenter un peu la bibliothèque des bouquins qui existent, qui est déjà un peu étoffée, mais il y a toujours des ouvrages qui sont à mettre à jour. De toute façon, les choses changent. C'est sûr que les multinationales, de l'époque où en 72 je vendais des bouquins sur les multinationales à l'université à Toulouse, les multinationales ne sont pas vraiment ce qu'elles étaient à cette époque-là. Et de même, l'armée française, c'est plus la même. Actuellement, il y a l'Africom. L'Africom, c'est une armée montée par les US pour l'Afrique. C'est fait comme nous on montait les armées, c'est-à-dire avec des troupes d'Africains. Je pense que la France, avec Sarkozy, était en train, comme pour l'OTAN, de rentrer complètement dans l'histoire de l'Africom, c'est-à-dire faire disparaître peu à peu les troupes françaises en tant que telles, mais se mettre dans ce truc-là qui est beaucoup plus difficile à aborder et à attaquer, de plusieurs pays occidentaux, sans jamais oublier Israël d'ailleurs, qui est toujours là, en Afrique, pour faire des trucs plus ou moins militaires, qui jouent un rôle évident, depuis très longtemps. Et, bon, enfin bref, on pourrait dire, il y a la bande des quatre, les États-Unis, la France, l'Angleterre et Israël, qui ont l'air de plus en plus en train de s'associer et de former les futures armées africaines. Elles ne seront plus camerounaises, ceci ou cela, elles seront africaines, internationales. Et on va intervenir internationalement. On va vous expliquer toujours que ça va être pour des raisons humanitaires. Bien sûr, on a un bon cœur depuis toujours. Hein. C'est, les preuves sont là. Le génocide rwandais, c'est un saut par rapport au Cameroun, il faut ajouter 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus. Et on arrive en 94 et voilà, c'est encore pire que ce qui s'était passé.
Je voulais vous demander votre titre, enfin, je ne sais pas qui l'avait mis. Il y avait France-Afrique et puis il y avait France-Afrique. Enfin, si vous voulez dire FRIC. Quelles sont ces filières qui se sont mises en place pour envoyer de l'argent en Afrique, faire en sorte que finalement il n'aille non pas aux élites, mais qu'aux gens bien en place, et que troisièmement, il en revienne un peu ou beaucoup aux Français qui s'étaient arrangés pour en envoyer, quoi, puisque ça marchait comme ça un peu.
Ça marche.
Je veux dire, dans le système des partis, c'est ça. Dans le système financement des partis.
Non, en général, tout. Les compagnies pétrolières et le reste.
L'industriel et tout ça.
Entre le fait qu'un Français qui travaille là-bas a une partie de son salaire, en général, qui est versé en France. Il n'a pas tout son salaire qui est là-bas, en général. Donc... on pourrait dire un Français qui est là-bas, il est payé tant, donc ça coûte tant. Effectivement, ceux qui disent on donne beaucoup à l'Afrique par la coopération, par ceci ou par cela, ils vont compter toutes les choses comme s'il n'y avait rien qui revenait. Mais même dans le salaire, il y a des choses qui ne vont même pas là-bas. Moi, je peux vous dire que mes collègues français qui travaillaient à l'université, ils sont tous venus, leur retour, ils ont acheté des villas, etc. Ils avaient un salaire, quand on est coopérant, plus militaire, mais civil, qui est assez extraordinaire. On ne paye plus d'impôts, pratiquement plus. Et tout, c'est, en tout cas, ça se passait comme ça. Je pense que ça se passe encore beaucoup comme ça. Cela étant, c'est des détails, ce que je viens de vous dire, parce que le gros des fuites, c'est organisé par les multinationales. C'est organisé à la base. Est-ce que vous êtes capable de dire combien de pétrole est produit au Gabon, au Cameroun? Moi, j'ai jamais réussi à trouver un site internet ou un bouquin qui me dise combien il y a de pétrole. Moi, je pense que de toute façon, les fuites sont déjà organisées là, sur la quantité de ce qui est exporté. quand vous regardez des journalistes qui font des enquêtes sur l'or qui est produit, s'ils restent plusieurs années, s'ils reviennent et tout ça, ils finissent par percevoir qu'il y a des avions qui circulent, mais qui circulent complètement hors circuit. Il y a des choses non comptables qui se produisent. Bon, je pense que ça encore, c'est probablement des détails. Des trucs qui ne sont plus du tout du détail, c'est la dette de ces pays-là. Nous, la dette, on voit ce qu'elle donne aux Grecs. Eux, ils sont soumis à la dette depuis déjà longtemps, depuis le début pratiquement. Ensuite, il y a les paradis fiscaux. Nous, les paradis fiscaux, y a tellement d'argent qui circule, on est un pays tellement riche qu'on ne souffre pas vraiment dans la main. Il y a une partie de la population qui en souffre. Le quart monde devient de plus en plus important. Mais enfin, moi, par exemple, je n'en souffre pas éventuellement. Je ne m'en aperçois pas qu'il y a des parties paradis fiscaux. Si vous voulez, je ne fais pas trop attention. Mais n'empêche que ça prend de plus en plus d'importance. En tout cas, je peux vous dire que ceux qui ont fait les calculs, et cela de tout temps, et les calculs d'aujourd'hui, disent qu'il y a beaucoup plus de flux qui vient dans notre avantage que de flux qui vont là-bas. Évidemment. Et en plus, on a le contrôle de leur monnaie. Là aussi, il y a des détournements qui se produisent. Donc, si vous voulez, tout s'accumule. Et quand vous faites vraiment la prise en compte du cumul, il n'y a aucun doute, on ne leur donne rien. On pille.
Oui. Ouais, d'accord.
Parce que pour changer les choses en Afrique, il ne faut pas d'abord changer les choses en France. Ce serait plus simple. Hein. Ben, j'ai la base.
Si vous voulez, moi, quand je suis revenu d'Afrique, je ne voulais même plus travailler pour la France, tellement ce pays, la France me dégoûtait. Donc, je n'ai pas fait de recherche pendant assez longtemps. Je faisais que la moitié mon boulot, moitié politique et moitié, politique activiste, si vous voulez, pas politique des partis. Et puis, moitié enseignant. Et puis, j'ai fini par craquer. J'ai fini par travailler à plein temps. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, c'est en France qui... C'est la France.